Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs abondamment. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, parce que ce soir encore, tu nous rassembles dans ta maison pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous donner de quoi nous avons besoin pour mener une vie chrétienne authentique, véritable, qui nous prépare pour l'éternité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle-toi-même. Parle-toi-même dans nos cœurs. Utilise tous ceux qui auront à intervenir pour parler à ton peuple, afin que chacun parte d'ici nourri, afin que chacun parte d'ici fortifié dans sa marche avec toi, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le temps avance très vite. Nous allons entrer immédiatement dans notre sujet. Le thème que nous allons débattre ce soir, c'est les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est le sous-thème que nous allons ensemble débattre. Bien sûr, on a intitulé ce sous-thème les fruits du Saint-Esprit. Mais parler des fruits du Saint-Esprit, c'est une façon de voir les choses. Avec l'apôtre Paul et beaucoup de commentateurs bibliques et d'enseignants de la foi, nous ne voyons qu'un fruit. Un fruit de l'Esprit de Dieu avec 8 manifestations que sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Ces attitudes ou qualités sont en réalité des grâces que Dieu accorde par son esprit aux chrétiens véritables, aux chrétiens authentiques. Mais a-t-on jamais rencontré un chrétien qui vit dans la soumission à Dieu de façon à reproduire toutes ces qualités grâce à la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous reproduisez ces qualités? Je vous pose la question. Est-ce que ces qualités que je viens d'énumérer, vous reproduisez? Que ceux qui reproduisent ces qualités lèvent la main. J'ai vu 2 doigts, 3, 4, 5, 6. J'ai vu 6 personnes. Bien. Nous allons avancer et vous allez comprendre davantage. D'abord, l'amour. Parlons de l'amour. Qu'est-ce que l'amour chrétien? Et comment l'avoir?
Grâce.
Comme vous le savez, en montant au ciel, le Seigneur Jésus a donné à ses disciples un seul commandement, le commandement d'amour. Il a donné ce commandement qu'il se charge lui-même d'accomplir dans le cœur des siens. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Le fruit de l'Esprit Saint est donc aussi le résumé de la foi, de la loi. Dans l'Ancien Testament, Dieu, le Père, l'avait déjà ordonné comme loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, ordonna-t-il. Lévitique 19, verset 18. Vous voyez donc comment la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, est omniscient. Elle règne toute, elle règle toutes choses. La Sainte Trinité composée de trois personnes divines vit dans l'amour. Il vit dans l'amour parfait et voudrait que tous les hommes, tous ses enfants, tous les enfants de Dieu parviennent à vivre dans le même amour. L'amour dont il est question ici n'est pas un simple sentiment d'affection, mais c'est une attitude qui se fait voir dans l'action. Et c'est le Saint-Esprit qui vit en nous depuis notre nouvelle naissance qui le promeut, qui favorise son développement. Le fruit de l'Esprit ne peut donc pas exister chez un chrétien qui n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire un faux chrétien. Cependant, même après la nouvelle naissance, il faut soi-même préparer le terrain en vue de la semence et du développement de ce fruit. Préparer le terrain consiste à adopter un style de vie dont l'orientation telle que l'exige Dieu, dont l'orientation est telle que l'exige Dieu dans sa parole. C'est-à-dire que si on veut que l'Esprit de Dieu puisse faire en sorte que son fruit existe en nous, il faut mener une vie, il faut mener sa vie telle que Dieu l'exige dans sa parole. Si on mène la vie chrétienne telle que Dieu l'exige dans sa parole, l'Esprit Saint produit en nous le vouloir et le faire. Cet esprit qui produit en nous donc le vouloir et le faire fera progresser la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la douceur. La fidélité ou la foi, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Philippiens 2, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset? Philippiens 2, verset 13. Quelqu'un peut nous, peut-il nous lire ce verset? Voilà, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si nous regardons la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il vivait à chaque instant dans l'amour. Et toutes les qualités que nous avons suivies, Jésus-Christ les avait. Ses qualités faisaient même son être. C'était sa vie. Il vivait entièrement ces qualités-là au quotidien. Et nous aussi, depuis que nous avons cru, Depuis que nous sommes nés de nouveau, notre objectif devrait être de ressembler à Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Jésus-Christ car il est notre sauveur et notre maître. Lorsque notre nouvelle naissance est réelle et vécue au quotidien, la puissance de l'Esprit Saint qui a fait des miracles dans le passé au sein de l'Église le fait encore aujourd'hui, et des personnes qui vivent dans une foi authentique connaissent le miracle de l'amour et entrent véritablement dans de nouvelles dispositions les uns envers les autres comme envers le monde. Ainsi, ils peuvent créer aussi de nouveaux rapports entre eux et avec le monde. L'Église appartient à Jésus-Christ et elle est composée normalement des personnes nées de nouveau, des personnes qui mènent une vie surnaturelle, ce qui leur permet de ne plus ressembler au monde, ce qui leur permet de ne plus mener n'importe quelle vie. Ils peuvent entre eux réfléchir sur la manière de vivre telle que chacun soit à l'aise, telle que chacun soit heureux. Et ils peuvent en même temps, avec la force que Dieu leur donne, aider le monde à mener une vie, à vivre autrement, à mener une vie dans laquelle les gens ne ressemblent pas aux animaux sauvages qui se mangent entre eux. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour et ses manifestations, permet d'aimer même les ennemis. Et c'est ça qui fait la différence entre la foi chrétienne et les religions. La foi chrétienne est complètement différente des religions. Les religions, quelles sont les religions que vous, les religions que vous connaissez? Quelles sont les religions? Pardon? Vous ne parlez pas fort. Le dîme. Ok, d'accord. Quoi d'autre? L'islam. Et quoi d'autre? Le shintoïsme. Est-ce que ces religions sont capables d'aimer les ennemis? Ils n'ont pas appris cela. C'est même parfois par la guerre, avec la guerre, qu'elles s'installent. Mais, quant aux chrétiens, est-ce qu'ils aiment les ennemis? Le vrai chrétien qui aime ses ennemis. J'ai vu un, deux. En tout cas, quelques doigts et d'autres se lèvent péniblement. De toutes les façons, c'est un ordre qui nous est donné. Si nous sommes chrétiens, nous devons aimer nos ennemis. Mais il faut commencer par avoir le fruit de l'esprit. Il faut d'abord avoir le fruit de l'esprit pour y arriver. Parce que, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous demande d'aimer les ennemis? Parce que en réalité, c'est ce qui fait de nous de manière authentique, de manière suffisamment claire, que nous sommes différents des autres religions. Et si nous aimons nos ennemis, ceux qui nous entourent, ceux qui nous observent, vont s'interroger. Il faut se demander, est-ce que ces gens-là sont simples? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, il n'y a pas quelque chose qui les bouscule, qui les force à aimer les ennemis? Et quand ils vont s'interroger ainsi, ils vont chercher, tout au moins certains pourront chercher à se joindre à nous. Prenez Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Celui qui trouve, lit, s'il vous plaît. Proverbe 16, verset 7. Ok. 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez la différence entre la foi chrétienne, parce que nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la révélation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait connaître à nous. Philippiens chapitre 1, verset 27 à 28. C'est ce qui, c'est là où on nous montre comment les hommes peuvent nous joindre si nous aimons les ennemis. Philippiens 1, verset 27 à 28. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous, pour eux, une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Nous avons donc essayé de voir ce qu'on appelle l'amour. L'amour tel que les chrétiens le vivent. Si les chrétiens vivent dans l'amour, ils peuvent véritablement servir Dieu. Ils peuvent obéir à Dieu. Parce que le commandement dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, etc., etc. Et le prochain comme soi-même. En réalité, il n'y a donc qu'un seul commandement divisé en deux. Le chrétien est également appelé à reproduire les traits de caractère de Christ avec l'aide du Saint-Esprit De telle sorte que si le chrétien ne reproduit pas les traits de caractère de Christ, il n'est pas chrétien. C'est-à-dire que si le chrétien n'essaie pas de vivre comme Jésus a vécu sur cette terre, il n'est pas du tout chrétien. Vous suivez? Si le chrétien ne cherche pas à vivre comme Christ a vécu sur cette terre, il n'est pas chrétien. Il faut d'abord dire que le chrétien est un être qui a changé de nature. Il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, versets 1 à 8. Vous lirez à la maison. Cet esprit qui donne la vie est le Saint-Esprit. Il était présent à la création du monde. Et il est la puissance qui permet la nouvelle naissance de chaque chrétien. Il nous accorde la force dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Acte 1, verset 3 à 5. Si depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous sentons une transformation en nous, de telle sorte que nous sommes incapables de vivre comme un non-chrétien, l'Esprit Saint habite en nous et nous dirige. Vous avez suivi? Si nous menons notre vie de telle sorte que nous sommes incapables de vivre comme les non-chrétiens, l'Esprit Saint nous habite. Mais si nous menons la même vie que les non-chrétiens, nous sommes des menteurs. Et tout naturellement, l'Esprit Saint n'habite pas en nous. Même si nous montrons au monde que nous sommes des chrétiens, même si nous communions chaque mois. Si nous sommes donc des personnes nées de nouveau, nous sommes appelés à reproduire de jour en jour les traits de Christ. Pour y arriver progressivement, il nous faut d'abord nous engager à ne jamais laisser la chair avoir de dessus sur nous. Romains 8, versets 9 à 12. Je demande à quelqu'un de nous donner la lecture de ce texte. Romains 8, 9 à 12. Quelqu'un a vu? Chrétiens, nous ne devons donc jamais laisser la chair, c'est-à-dire notre homme naturel, nous ne devons jamais laisser que nos choix, nos ce que nous, tout ce que nous faisons soit dirigé par l'être humain naturel. C'est ça qu'on appelle la chair. C'est-à-dire, nous ne devons jamais nous laisser dominer par notre être tel que nous sommes venus au monde. Nous devons nous laisser dominer par l'Esprit de Dieu et lui permettre de guider tous nos choix. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. Vous notez. Je dis 1 Corinthiens 2, verset 10 à 12. 1 Corinthiens 3, verset 16. Galates 5, verset 16. Et verset 25. Je prie quelqu'un de lire Galates, s'il vous plaît. Galates 5, verset 16 et 25. Verset 25.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit.
Voilà la vie chrétienne. Nous devons nous engager à mettre en pratique toute la volonté de Dieu et non choisir ce qui est moins contraignant dans cette volonté. Nous devons nous engager à vivre tout ce que Dieu exige de faire. Jean chapitre 4 verset 34, Romains 7 verset 18. Nous devons prier avant tous nos choix et écouter Dieu. Mener une vie de prière quotidienne. Proverbes 15 verset 8, Luc 18 verset 1. Éphésiens 6, verset 18, Colossiens 4, verset 12, 1 Timothée 2, 8, Jacques 5, 16 à 18. Avoir la position de l'apôtre Paul, telle que nous avons dans Philippiens 3, verset 12 à 14, que je prie de lire. Philippiens 3, verset 12 à 14.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je prie, vous tâchez de me saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste.
Nous sommes là pour toi.
C'est fini. Ok, bien. Vous avez suivi l'apôtre Paul. Qu'est-ce que vous entendez ici? Comment le chrétien se comprend? Comment il sent sa vie? Comment il sent sa relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il pense de sa relation avec Dieu? C'est parce que je vous pose bien la question. De toutes les façons, le chrétien s'est engagé dans une marche. Derrière Jésus. Et cette marche a des hauts et des bas. Il n'a pas déjà atteint la sainteté, mais il est en marche. Si un chrétien ne s'efforce pas chaque jour de mener la vie tel que il sent les progrès. En ce sens que de jour en jour, il essaye de faire ce que Dieu demande. Il y a là quelque chose qui ne tient pas. L'apôtre Paul, lui, regardait toujours devant. Et malgré ses difficultés, malgré qu'il pouvait pécher, il ne restait pas sur place. Il avançait, sachant que il a été déjà, Christ s'est emparé de lui, et lui aussi avance pour arrêter aussi Jésus, si je peux ainsi m'exprimer, pour s'emparer aussi de Christ. Voilà notre vie. Nous oublions la vie qui était la nôtre avant et nous avançons sur la route que Christ a tracée devant nous. Nous avançons pour remporter le prix de l'appel. Christ nous a appelés. Et si nous continuons la marche comme il veut, malgré nos difficultés, malgré des hauts et des bas, un jour, nous remporterons le prix qu'il réserve à nous. Et quel est ce prix? Quel est ce prix? Vous parlez dans la gorge. C'est la vie éternelle. Le salut ouvre la vie éternelle, nous ouvre, nous permet, n'est-ce pas, d'entrer dans une marche qui nous conduit dans la vie éternelle. Nous devons rechercher la sanctification. Dans Romains chapitre 6 au chapitre 8, verset 39, nous avons là tout un enseignement de Paul sur ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est chercher à obéir à Dieu tous les jours, à faire toujours plus d'efforts pour faire ce que Dieu demande, à ne jamais reculer, toujours avancer en évitant de demeurer dans une vie de péché, dans les échecs. Et nous avons des décisions à prendre. Nous avons des efforts à fournir. Nous devons éviter la compagnie des païens et des faux frères et chercher celle des chrétiens fidèles. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Romains 5, verset 9 à 13. Éphésiens 4, verset 17 à 32. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Pierre 2, verset 1 à 9. Je propose que nous lisions 2 Pierre 2, verset 1 à 9. Celui qui trouve ce texte, qui nous en donne la lecture. 2 Pierre 2, verset 1 à 9. Ce qui est clair donc, c'est que même parmi les chrétiens, il est possible qu'il y ait des gens qui se promènent seulement, ou bien qui sont des envoyés de l'ennemi pour fourvoyer les gens. C'est possible. Il peut y avoir parmi les chrétiens des personnes qui sont là pour travailler pour Satan. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Hein? Pardon? Ok. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Les damnés ne proviendront pas seulement des non-chrétiens, mais aussi des hein? Des chrétiens. Hein? Oui, mais ils sont là. Ils sont là. Et ils ont même des responsabilités parfois. Nous devons revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Que je demande à quelqu'un de lire, s'il vous plaît. L'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10 à 18. Quelqu'un nous lit ce texte? Après cette don revêtu des qualités que nous appelons fruit de l'esprit, il faut également se revêtir, n'est-ce pas, de l'armure. Il faut se revêtir de l'armure de Dieu. Il faut avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants. Colossiens 4, verset 5, 1 Pierre 2, verset 12. Recevoir toutes sortes, toutes choses comme volonté de Dieu, car tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous arrive, nous devons accepter cela comme la volonté de Dieu, car tout coopère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne veut pas dire que que le chrétien est une personne résignée, mais seulement il vit de telle sorte que il s'est abandonné. Sa vie est abandonnée à Dieu. Et il sait que rien ne lui arrive sans la connaissance de Dieu et sans que Dieu n'accepte, tout simplement. Nous avons parlé du fruit de l'esprit, qui est l'amour, avec ses manifestations, que sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Si nous avons toutes ces qualités, nous pouvons mener notre vie surnaturelle dans toute sa splendeur, tout son éclat, et nous n'aurons pas à dire que nous sommes des chrétiens, mais tout le monde le verra, parce que cela sautera aux yeux de tout le monde à travers nos paroles et nos actes. La joie qui est un sentiment de bonheur intense fera resplendir notre face et nous attirerons les gens à nous. En nous voyant seulement, nous attirerons les gens à nous si nous avons la joie de Dieu. La paix qui nous habite caractérisera nos actions et nos réactions dans les débats. La patience, qui est une aptitude à supporter les maux, les désagréments, même la persécution, tout ce qui peut être négatif dans notre vie, la paix nous permettra, la paix de Dieu, la paix que Dieu nous donne, nous permettra de supporter tous ces désagréments et même le comportement des gens, y compris les violents, qui caractérisent l'existence. Tout cela, nous serons capables de supporter. Et nous serons capables de s'aimer, n'est-ce pas, entre les gens, cette paix. La bonté nous amènera à avoir le plaisir de partager. Et de nous approcher de tous, même des plus difficiles, des êtres humains. La bienveillance, qui est une disposition favorable envers les gens, fera de nous des personnes qui attirent. La fidélité fera de nous des personnes de confiance, des personnes qui mettent ceux qui les abordent à l'aise. Notre douceur évitera des étincelles dans les débats auxquels nous participerons et réduira les violences à leur simple expression ou même à les faire disparaître. La tempérance, qui est cette vertu qui discipline les désirs et les passions humaines, fera la différence dans un monde où la loi du plus fort et toutes sortes d'excès ont transformé notre terre en une véritable jungle. En réalité, ce dont notre monde a besoin, ce n'est pas le plus d'armes, le plus d'argent, le plus de nourriture, d'hôpitaux, mais d'amour, avec ces manifestations dont les manifestations que nous avons citées. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est des personnes qui vivent dans la vie surnaturelle, c'est-à-dire le monde a le plus besoin des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Je voudrais vous proposer une tâche. Vous êtes d'accord? Voilà. Vous allez prendre un papier. Et vous allez noter ce que je dois citer. Je dois vous dire. Si vous y êtes, je vous propose d'établir une liste avec au moins 5 domaines dans lesquels vous aimerez plus ressembler à Jésus-Christ. Et prendre du temps pour demander à Dieu de vous aider à progresser dans ces domaines avec l'aide du Saint-Esprit. Relisez cette liste au moins un mois plus tard pour faire un premier bilan et y revenir autant de fois que possible pour mesurer le chemin parcouru. Ne jamais reculer, mais toujours avancer. Vous avez suivi? Hein? Je reprends. Établis une liste avec au moins 5 domaines dans lesquels vous aimerez plus ressembler à Jésus-Christ. Et prendre du temps pour demander à Dieu de vous aider à progresser dans ces domaines avec l'aide du Saint-Esprit. Relisez cette liste au moins un mois plus tard pour faire un premier bilan. Pardon? Je n'ai pas suivi. Établir une liste avec au moins 5 domaines dans lesquels vous aimerez plus ressembler à Jésus-Christ et prendre du temps pour demander à Dieu de vous aider à progresser dans ces domaines avec l'aide du Saint-Esprit. Relisez cette liste au moins un mois plus tard pour faire un premier bilan et y revenir autant de fois que possible pour mesurer le chemin parcouru. Ne jamais reculer, mais toujours avancer. Vous avez suivi? Hein? Vous avez suivi? Je reprends. Établis une liste avec au moins 5 domaines dans lesquels vous aimerez plus ressembler à Jésus-Christ et prendre du temps pour demander à Dieu de vous aider à progresser dans ces domaines avec l'aide du Saint-Esprit. Relisez cette liste au moins un mois plus tard pour faire un premier bilan et y revenir autant de fois que possible pour mesurer le chemin parcouru. Ne jamais reculer, mais toujours avancer. Je voudrais m'arrêter ici pour vous laisser la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter ou des questions à poser, je vous laisse la parole.
Change-moi, je t'en prie. Change-moi. Change-moi.
Saint-Domingue. Ce n'est pas un domaine là. C'est un conseil. C'est vous qui choisissez votre domaine. C'est-à-dire que vous voulez ressembler à Jésus. C'est pour ceux qui veulent ressembler à Jésus. Si vous voulez ressembler à Jésus, faites une expérience pour voir si vous le faites vraiment, si c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que j'ajoute même que vous demandez à vos voisins, à vos proches, à vos amis, de voir si quelque chose a changé. Oui. Oui.
Emmène-moi plus haut.
Oui.
Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi.
Non, pas forcément. Pas seulement. Parce que nous avons ici les fruits. Mais il y a tant d'autres choses dans la Bible. Tant d'autres choses que nous devons faire comme chrétiens. Pour nous présenter comme chrétiens. Il n'y a pas seulement les domaines là, les qualités là. Même si c'est en quelque sorte un résumé de la vie chrétienne. Il y a par exemple le mensonge, il y a les gens qui sont chrétiens mais qui n'arrivent pas à ne pas mentir. N'est-ce pas? Il y a certains qui sont chrétiens mais qui n'arrivent pas à, pourtant dit, il ne faut pas, un chrétien ne doit pas mentir. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à ne pas mentir. Il y a des gens qui sont très envieux. Il y a des gens qui sont très envieux. Ils font n'importe quoi, ils n'arrivent pas à ne pas envier. Il y a des gens qui sont jaloux. N'est-ce pas? Ils font n'importe quoi, ils n'arrivent pas à ne pas être jaloux. On peut citer comme ça beaucoup de choses qui existent. Même si les qualités là nous donnent l'occasion, nous donnent la possibilité de voir notre vie et de progresser au besoin. Et c'est chacun qui connaît comment il vit sa foi. C'est chacun qui sait comment il se comporte dans la vie, dans cette vie de foi. À toi donc de choisir ce qui paraît difficile à faire, peut-être. Je crois que à ce qui te paraît difficile à faire pour ressembler à Christ. Ça peut être parmi les, comme l'ancien a dit, ça peut être parmi les qualités là qu'on a données pour parler du fruit de l'esprit. Ça peut être dedans. Si vous voulez, vous choisissez là-dedans. Est-ce que vous n'arrivez pas à être prudent, à être, à être tempérant? Est-ce que vous n'arrivez pas à être fidèle? Est-ce que vous n'arrivez pas à être à avoir la joie? Etc, etc. De toutes les façons, c'est à vous de choisir. Oui? S'il vous plaît. Non. Nous n'allons pas fuir nos parents. Nos parents sont nos parents. Même s'ils sont des païens. Mais nous sommes obligés de vivre notre foi en leur présence. Tel qu'ils puissent voir. Nous n'allons pas vivre notre foi en cassette. Nous allons vivre notre foi et même profiter des occasions pour leur parler de Christ. D'accord? Voilà. Oui? Micro. Ok. Moi, je crois que le péché contre le Saint-Esprit, c'est quand nous refusons de nous soumettre à ses exigences, aux exigences de Dieu, aux exigences de la vie chrétienne. Parce que si nous refusons carrément de vivre la vie chrétienne, d'obéir à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons choisi la mort. Oui?
Je voudrais intervenir d'abord sur sa question et apporter quelques compléments dans la compréhension. Je ne sais pas si ça, le micro m'écoute. J'ai dit, voilà, merci. J'aimerais d'abord apporter un élément de réponse sur ce qu'elle a dit, elle a posé comme question, et apporter quelques éclairages sur des choses qui ont été dites pour que nous nous comprenions et qu'on soit dans la continuité de tout ce qui a été dit depuis le départ. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de refuser de croire en Jésus-Christ jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et si vous êtes dans cet état-là, il n'y a rien d'autre. Ananias et Saphira, c'était la punition d'avoir menti au Saint-Esprit. Cela a été manifeste comme une correction pour servir aux autres. Donc, si vous entendez parler de Jésus, vous êtes à l'église, vous jonglez, vous refusez de donner votre vie à Jésus, vous êtes incrédule, jusqu'à ce que vous mouriez dans cet état, vous êtes dans la posture de quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, à vous écouter ce soir, j'ai comme l'impression qu'on va faire le travail du Saint-Esprit. Et on risque de se projeter dans la religion. C'est dans la religion qu'on fait des efforts. C'est dans la religion qu'on se bat. C'est dans la religion qu'on fait des sacrifices. Ça, c'est la religion. Dans le sens strict, ne fais pas, fais. Ne fais. Ça, c'est la religion. Le Saint-Esprit n'opère pas ainsi. Et un enfant de Dieu n'est pas sous la loi. Et ta justification ne sert à rien devant Dieu. Ce que tu as fait, ça peut être bon pour les hommes. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, parlant des fruits du Saint-Esprit. Le pasteur a très bien fait de les résumer dans l'amour. Mais il y a une chose qu'il faudrait apporter comme complément. L'amour lui-même est déjà un fruit du Saint-Esprit. Et c'est par lui que l'apôtre Paul dans Galates 5 commence. Si les autres en sont dans les manifestations de l'amour, ça veut dire que Paul s'est trompé. Dans ce cas, il ne s'est pas trompé. Il faudrait maintenant qu'on comprenne pourquoi il ne s'est pas trompé. Un fruit n'est pas l'émanation de toi. C'est l'émanation de ce qui est en toi. Et le fruit est l'émanation du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas l'émanation de ma connaissance ou de ma discipline. Ma discipline peut participer, mais c'est l'émanation du Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi on parle de fruits. Ça part de toi pour l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui produit cela en toi. En réalité, il a posé un autre problème. Est-ce qu'on peut aimer son ennemi? Tu ne peux pas aimer ton ennemi si le Saint-Esprit ne produit pas cela en toi. Tu ne peux pas le manifester. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être tempérant. Aujourd'hui, tu seras tempérant parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de gentil. Mais demain, la même personne dit quelque chose de bizarre. Tu cesses d'être tempérant. Ça, c'est la religion. C'est la discipline. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui. Il a dit Allah Akuba et il a poignardé. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, le Saint-Esprit en toi ne peut pas te permettre de proposer un tel acte. Celui-là, il a été capable de vous donner le monde, de vous assister et tout. Mais après, lui, il a dit un seul mot et il vous a poignardé. Ça, c'est la religion. Je voudrais qu'on comprenne très bien. Le Saint-Esprit, il a dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, s'il produit en nous le vouloir et le faire, ce que nous manifestons vient de lui. Ça ne vient pas de nous. C'est pourquoi, à l'entendre à vous entendre dans vos questions, j'ai peur que des gens maintenant au bout de vous dire si je fais comme ça, je fais comme ça. Non, c'est la finalité d'apprendre sur les fruits du Saint-Esprit, c'est de dépendre du Saint-Esprit. C'est de produire ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Et si nous dépendons du Saint-Esprit, il a relevé des choses. La patience. Est-ce que il peut avoir rivalité si tu dépends du Saint-Esprit? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il y a des choses que Dieu attend de nous. Et si Dieu est déjà en nous et que nous manifestons encore des choses par nous-mêmes, c'est que Dieu n'opère plus. Et Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dis cela parce qu'il faut éviter de rentrer dans une religion où on commence à dire, bon, j'ai quand même fait l'effort. Non, il n'y a pas ton effort là. Ton effort là est zéro. Et si ton effort n'est pas l'action du Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ce que tu as produit, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est de la religion. C'est de la religion. Donc, c'est ce que j'ai voulu relever. Et il a dit également quelque chose qui m'a... Tout ce qui nous arrive n'est pas toujours la volonté de Dieu. Non. Quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est pour ceux qui aiment Dieu. Tu ne vas pas voler, tu dis que ce qui t'est arrivé là, on t'a tapé, Non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Il faut d'abord, et il a bien précisé, il faut d'abord que tu sois en Dieu. C'est pourquoi ça commence par la nouvelle naissance. Ça, c'est des compléments que je voudrais apporter. Merci.
Ok, merci. Nous ne sommes pas là pour un débat théologique. Mais ce qui est certain, la vie chrétienne n'est pas immobile. Ce n'est pas que quand je deviens chrétien, par exemple, je dis que je suis chrétien, je fais tout ce que je veux. Le chrétien doit faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est comment? Est-ce qu'il faut croiser les bras pour laisser que le Saint-Esprit fasse la volonté de Dieu? C'est moi-même. Je dois laisser le Saint-Esprit me donner la force d'accomplir la volonté de Dieu. Et je peux refuser. Je peux refuser. Parce que si la vie chrétienne était telle que l'homme n'a rien à faire, il n'y aurait donc pas question de... On ne serait pas là pour prêcher tous les dimanches, pour donner les prédications tous les dimanches. On prêche pourquoi? Pourquoi on prêche les dimanches?
Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je dis bien que ce que vous avez dit, c'est fondamental.
Nous sommes devant les adultes.
Oui, je suis en train de dire que ce que vous avez dit, c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est faux. Peut-être qu'on ne se comprend pas. J'ai dit que ce que vous avez dit, c'est pertinent. Mais maintenant, si on est déjà chrétien, on ne fait plus cela par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous amène à le... Parce qu'il est en nous, c'est lui qui nous conduit à le faire. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit le contraire. C'est la même chose que vous êtes en train de dire, je n'ai pas dit le contraire.
Bien, de toutes les façons, ce que je dois dire... Comme pasteur et comme enseignant de la foi, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie immobile. Et l'apôtre Paul l'a dit lui-même, je m'efforce. Prenez le texte de... Prenez... Prenez Philippiens 3, verset 12 à 14. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il est né de nouveau. Dieu l'a. Christ s'est emparé de lui. À son tour, il s'efforce pour s'emparer de Christ. Il meurt en lui-même. Et il laisse Christ vivre à travers lui. Comment le faire? En refusant tout ce qui peut le pousser à désobéir à Christ, à pécher. Et il y a des choses qui nous poussent à pécher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter. Il faut. Si par exemple, j'ai dit qu'il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Si par exemple, en marchant avec certaines personnes, je peux tomber dans le péché, je rompe avec eux, je rompe avec elles. C'est ce que je suis appelé à faire. Donc, je fais quelque chose. Je ne me croise pas les bras pour que l'Esprit fasse tout en moi. Bien sûr, l'Esprit est là pour m'aider. Mais il faut que j'obéisse. Il faut que je lui obéisse. Nous ne sommes pas, bien sûr, dans la région, les régions où il faut, n'est-ce pas, faire ceci, prier cinq fois par exemple, et on est prier cinq fois par exemple, et on est garanti de son salut, jeûner pendant 40 jours, on est garanti. Mais nous aussi, nous prions, nous jeûnons, et nous faisons tellement de choses pour progresser dans la foi. Et quand j'ai donné le devoir à faire là, vous êtes libre. Ce n'est pas une force. Et ce n'est pas pour être sauvé. Nous sommes déjà sauvés. On ne fait pas ça pour être sauvé. Nous sommes déjà sauvés, mais nous devons progresser dans la foi. Donc ce que nous faisons, c'est pour de plus en plus ressembler à Christ. Pour ne pas rester sur place ou bien reculer. Tout ce que nous faisons. Même les devoirs qu'on va faire là. Et ce n'est pas obligatoire. C'est à chacun de voir s'il peut faire ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Et je dis, nous ne sommes pas dans la région comme lui, il a dit. Tout ce que nous faisons librement pour plaire à notre Dieu. Pour que notre Dieu soit content de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Mais pour que le Saint-Esprit nous aide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord naître de nouveau et nous lui soumettre notre vie.